Et ce matin, en ce début de semaine sur les ondes médias, on parle de cœur et de dyspnée. La dyspnée qui serait très fréquente dans les maladies cardiaques. Quel lien donc, quel traitement? On fait le point ce matin avec notre professeur en cardiologie, professeur Ahmed Bennis. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca, je le rappelle. Merci beaucoup de répondre présent à cette invitation sur Médien. D'abord, quel lien, donc, je le disais, entre notre cœur et la dyspnée?
La dyspnée, c'est quoi? C'est une sensation de difficulté respiratoire.
D'accord.
Normalement, nous avons une respiration inconsciente. Nous ne sentons pas la respiration. Nous respirons tout à fait normalement. Quand on a des difficultés à faire entrer de l'air, sensation « je manque d'air », sensation « j'ai du mal à respirer », c'est un symptôme en fait subjectif. C'est un symptôme qui traduit une difficulté à la respiration et l'intensité de cet essoufflement, de cette difficulté de respirer, et peut être corrélée à la gravité des maladies cardiovasculaires. C'est une sensation malheureusement qui est angoissante, qui parfois donne des perturbations psychologiques, parce que il y a une incapacité des poumons à utiliser l'oxygène, à le faire entrer et aller alimenter les tissus. Mmh. Et donc, on a deux possibilités. On a des dyspnées, c'est-à-dire des difficultés respiratoires qui sont brutales, qui vont s'aggraver très rapidement. Donc ça, c'est les grandes situations d'urgence. Par exemple, l'œdème pulmonaire ou l'asthme aigu grave, les grandes crises d'asthme. Et parfois, dans d'autres cas, on a une difficulté respiratoire, ce qu'on appelle une dyspnée chronique, c'est-à-dire une dyspnée qui va s'installer progressivement, qui va s'aggraver progressivement et qui va aller, on va dire, crescendo, qui va monter, et par conséquent, ça va avec la gravité de la maladie. Alors ça peut être cardiaque, ça peut être respiratoire, ça peut être musculaire, ça peut être neurologique. Donc on a plusieurs causes.
Alors, les causes donc peuvent être nombreuses. Quels peuvent en être les signes qui devraient nous en alerter afin de ne pas passer à côté, professeur Bennis?
Alors, les causes peuvent être diverses. On peut avoir des causes respiratoires, par exemple les fameuses bronchopathies chroniques obstructives, l'emphysème pulmonaire, la fibrose des poumons, l'asthme, les infections. Ça peut être d'origine cardiaque. En général, le cœur, c'est lorsque le cœur est insuffisant, c'est-à-dire l'incapacité du cœur à répondre aux besoins de l'organisme. Et puis, ça peut être aussi des maladies neuromusculaires, ou ça peut être ailleurs, métaboliques, par exemple, les grandes obésités. Alors, quand est-ce qu'on va s'alarmer? Lorsque cette dyspnée va s'aggraver avec le temps, c'est-à-dire, elle va, avec le temps, devenir de plus en plus importante. Pour cela, on a une échelle. Au départ, on a une dyspnée qui, pour des efforts soutenus, par exemple, lorsqu'on va monter plus de 2 étages, puis on va avoir une dyspnée lors de la marche rapide ou en pente. Puis, quand ça va s'aggraver, c'est une dyspnée qui va survenir à la marche, sur un terrain plat. Par exemple, en suivant une personne de son âge. Puis, au stade 3, on va avoir une dyspnée qui va obliger la personne à s'arrêter pour reprendre le souffle après quelques minutes ou une centaine de mètres de terrain plat. Et puis, on a la dyspnée stade 4 au moindre effort. Donc ça, c'est l'échelle, c'est une échelle médicale MRC. Et puis, on a d'autres échelles qui sont beaucoup plus faciles. Il y a le stade 1 où on n'a aucun essoufflement à l'effort. Mm-hmm. Puis un deuxième stade qui va monter de gravité où on a un essoufflement minime pour un effort important. Et puis au stade encore plus grave, au stade 3, lorsqu'on a un essoufflement important pour un effort minime. Et au dernier stade, c'est un essoufflement permanent. Donc quand on a les stades 3 à 4, c'est-à-dire lorsqu'on va voir un essoufflement minime ou un essoufflement important pour un effort minime, ou un essoufflement permanent, ou encore lorsqu'on va avoir un essoufflement à la marche sur un terrain plat et qui va obliger la personne à s'arrêter, ça va devenir problématique. C'est-à-dire que lorsque cette difficulté respiratoire va retentir sur notre vie, sur notre capacité à faire des efforts habituels, à marcher, à faire le marché, à faire nos besoins de tous les jours, des difficultés à travailler, des difficultés à se déplacer, des difficultés à jouer avec nos enfants, des difficultés à monter les escaliers, des choses qu'on a l'habitude de faire, c'est à ce moment-là qu'il faut s'alerter.
D'accord. Alors, les personnes à risque, est-ce que vous voyez venir donc chez vous des jeunes patients qui en souffrent ou c'est vraiment à partir d'un certain âge, professeur Benis?
Tout dépend de la cause. Tout dépend de la cause qui est derrière. Parce que n'oublions pas, la dyspnée, ce n'est qu'un symptôme. En général, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des personnes jeunes qui sont en surpoids, qui sont sédentaires, qui sont obèses et qui ont ce fameux syndrome d'apnée du sommeil. Donc, ça peut être une cause de la dyspnée. Ce sont des personnes qui vont ronfler la nuit, qui vont avoir des difficultés, qui ont une obstruction trachéale, qui vont avoir des difficultés à respirer et donc qui vont manquer d'air et qui vont avoir un sommeil perturbé et un réveil difficile sans sommeil réparateur.
D'accord.
Ce sont des personnes qui peuvent avoir des surpoids assez importants. Mais quels sont les symptômes qui vont nous dire qu'il y a des signes de gravité? C'est lorsqu'on va y avoir une oppression thoracique, une sensation d'effort respiratoire. Nous avons besoin de respirer, de faire un grand effort pour faire entrer de l'air. On peut avoir des battements des ailes du nez, une toux, par exemple un tirage entre les côtes. Ça veut dire qu'on a des difficultés à faire entrer de l'air. Et ça veut dire qu'on est en train de faire un effort, de faire appel à nos muscles respiratoires pour faire entrer plus d'oxygène. À ce moment-là, ça va nécessiter de faire un bilan approfondi pour savoir quelle est la cause. Parce que, comme je vous l'ai dit, la dyspnée, c'est un symptôme qui attire l'attention vers l'appareil respiratoire, vers l'appareil cardiaque, vers les muscles et l'appareil neurologique thoracique. Tout ça, donc il faut en tenir compte. Et à ce moment-là, quand on va trouver la cause, à ce moment-là, ça va dépendre le pronostic et le traitement.
D'accord. Alors, si ce n'est pas traité, justement, avant de parler de traitement, si ce n'est pas traité à temps, quels seraient les plus grands risques, donc, à moyen et à long terme, professeur Benis?
Alors, quand on a une dyspnée qui est brutale, qui est aiguë, c'est-à-dire que la veille, je n'ai rien, je ne sens rien, je me déplace, et d'un seul coup, j'ai une difficulté à respirer qui va s'aggraver très rapidement. À la limite, je suffoque. À ce moment-là, il faut aller consulter très rapidement parce que c'est une urgence. Ça peut être un œdème pulmonaire. Et donc, ça veut dire que c'est la grande urgence cardiologique où la personne est noyée dans ses sécrétions, où le cœur n'arrive plus à pomper et les poumons sont engorgés d'œdème, de liquide. Et à ce moment-là, c'est une grande urgence. La personne va tousser, cracher mousseux. Et ça veut dire que le cœur gauche est défaillant. À ce moment-là, l'hospitalisation en urgence et le traitement en urgence. Ou parfois, c'est des personnes qui ont un asthme ou une bronchopathie chronique qui va s'aggraver très rapidement. Ça peut être un asthme aigu grave, ça peut être une embolie pulmonaire. À ce moment-là, quand la personne arrive, on voit que cette personne est polyplique avec une respiration très superficielle. La personne est en hypoxie, elle est rapide. On va faire des examens des gaz du sang qui vont montrer l'hypoxie, l'hypocapnie. Et à ce moment-là, on va déclencher un certain nombre d'examens pour savoir quelle est la cause, une radio, un électrocardiogramme, une radio thorax, un électrocardiogramme, une échographie cardiaque, voir quelle est la cause et adapter le traitement en fonction de la cause. Donc ça, c'est la grande urgence médicale.
D'accord.
Ailleurs, lorsque c'est la dyspnée chronique, c'est-à-dire qu'il va augmenter avec le temps, donc à ce moment-là, si la personne a une maladie cardiaque, et en particulier l'insuffisance cardiaque, il faudrait absolument mettre en œuvre un bilan de la cause de cette insuffisance cardiaque. Ça veut dire que le cœur est défaillant, soit le muscle cardiaque est défaillant, soit les valves sont défaillantes, soit il y a une tension trop élevée, soit ce sont les artères qui vont nourrir le cœur qui sont obstruées. Et à partir de là, on va faire une enquête. Et cette enquête va nous permettre de trouver la cause et d'adapter le traitement. Mais on a aujourd'hui des traitements qui vont améliorer, bien sûr, le patient et qui vont réduire cet essoufflement pour permettre à la personne de vivre une vie normale et, bien sûr, de diminuer de classe. S'il est en classe 3 ou 4, on va tout faire pour le réduire en classe 2, 1 et donc réduire la gravité de cet essoufflement. On peut trouver une cause respiratoire. Par exemple, ce sont les fameuses personnes qui ont une bronchopathie chronique obstructive, les grands fumeurs qui ont l'emphysème pulmonaire, ça peut être ces personnes qui sont longilignes, qui ont cet emphysème lobulaire et qui vont manquer d'oxygène, ça peut être aussi ces personnes qui vont un emphysème centrolobulaire, les fameux personnes un peu obèses, fumeurs, avec un thorax empiquique un peu et qui là aussi qui vont être dans des épisodes répétitifs, qui vont s'aggraver avec les infections et qui vont aller crescendo vers de grosses insuffisances respiratoires et des décompensations. Ça, on a besoin d'un traitement là aussi. Oxygène, on sait, on a besoin de corticoïdes, de bronchodilatateurs, d'antibiothérapie en fonction des cas. Et puis, pour les fameuses personnes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, à ce moment-là, on va explorer le sommeil et on va les oxygéner la nuit et on va les mettre sous CPAP, ce qui permettra bien sûr de réduire leur essoufflement.
Très bien. Alors maintenant que le diagnostic est posé, justement, quels peuvent en être les traitements? On l'a compris, c'est du cas par cas. Comment procédez-vous donc au traitement, professeur Bonnis?
Alors à ce moment-là, comme je le dis, le traitement consiste en premier lieu à traiter la cause.
Oui.
Alors, si c'est une dyspnée chronique, à ce moment-là, on a besoin d'un traitement symptomatique. Par exemple, si quelqu'un a fait de l'insuffisance cardiaque, on va donner des diurétiques qui vont soulager la personne, qui vont diminuer la congestion des poumons. Et donc, la personne va mieux respirer. Si c'est une personne qui a un problème respiratoire, on va faire une rééducation respiratoire, une réhabilitation respiratoire. On va donner des médicaments qui vont dilater les bronches, des bronchodilatateurs. On va donner des médicaments qui vont lutter contre l'inflammation, par exemple des corticoïdes. Et on va donner des traitements parfois non pharmacologiques. Par exemple, lorsque la personne a un syndrome d'apnée du sommeil, on peut faire une CPAP, une respiration positive pour entraîner une meilleure respiration. Donc vous voyez que tout dépend de la cause, et parfois lorsque la personne a des problèmes psychologiques, lorsqu'on ne trouve absolument rien, on va utiliser des opiacés à petite dose, ce qui va permettre de soulager la personne. Et on a aussi des moyens de prévenir la dyspnée. Par exemple, la première des choses à faire, c'est de demander aux gens de ne pas fumer. Parce que la première cause des difficultés respiratoires, ça reste les bronchopathies chroniques obstructives. Les fameuses maladies respiratoires qui tuent chaque année et qui vont encore tuer à force que les personnes fument encore. Et la dyspnée, en général, c'est un des premiers symptômes principaux de la bronchopathie chronique obstructive. Le surpoids, la sédentarité. Donc tout ça, c'est des facteurs sur lesquels on va jouer qui vont diminuer cette difficulté respiratoire. Et en général, le symptôme, la dyspnée, c'est un symptôme qu'il faut prendre au sérieux, en particulier lorsqu'il s'aggrave avec le temps, lorsque ça devient gênant, lorsque ça perturbe la vie de la personne, lorsque parfois ça empêche la personne de se déplacer normalement, de travailler, de vivre une vie normale. À ce moment-là, c'est un signe d'alerte, que ce soit un signe d'alerte aigu ou brutal, ou que ce soit chronique.
Très bien. Alors, professeur Ahmed Bennis, je rappelle que vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca. Quels seraient vos conseils et aussi si on peut prévenir donc la maladie, cette conduite à tenir, professeur Bennis?
Alors, aujourd'hui, on a parlé de la dyspnée, de la difficulté respiratoire. C'est un symptôme qui attire l'attention sur le cœur, sur la respiration. Et donc, en général, ça rappelle les facteurs de risque qui vont aboutir soit à une insuffisance respiratoire chronique, soit à de l'insuffisance cardiaque. Et les principaux facteurs sur lesquels nous devons jouer, nous devons prévenir, nous devons lutter, le tabac reste le facteur principal majeur. Donc, ne fumez pas, non fumez pas. Aussi bien le tabagisme actif que le tabagisme passif, ça c'est la première des choses. Le mois de Ramadan va arriver et donc il faut absolument tenir bon. Un mois sans fumer est extrêmement important. Et en général, nous avons des études qui nous montrent que quand on dépasse un mois sans fumer, on a la possibilité d'arrêter définitivement le tabac. Ça, c'est un message positif pour les gens qui nous écoutent. Deuxièmement, lutter contre la sédentarité, parce que plus on a du surpoids, plus on va dans l'obésité, plus on va être essoufflé et déconditionné, parce que les gens qui sont surpoids vont avoir un déconditionnement cardio-respiratoire. Ils ne pourront pas répondre aux besoins de l'organisme parce que leur capacité à l'effort est réduite. Troisièmement, lutter contre la sédentarité, lutter contre le diabète, avoir une alimentation saine, surveiller son poids, voilà, respirer de l'air frais, faire de l'exercice physique. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle d'une collectivité, il faudrait absolument que les lieux publics ne soient plus les lieux pour fumer. Il faudrait absolument que nous ayons des villes vertes, ça c'est important. Nous ayons moins de pollution. et nous ayons des espaces où nous pouvons pratiquer plus d'activités physiques, de loisirs. Je pense qu'il faudrait un peu repenser nos villes dans l'avenir, en particulier en 2050. La pollution, le tabac et le manque d'espace vert, ce sont trois axes sur lesquels nous devons travailler dans les prochaines années.
Parfait. Professeur Ahmed Bennis, vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce début de semaine. Et c'est un entretien qu'on peut réécouter, bien évidemment, sur Medien.com. Merci, professeur. À très bientôt.
Bonne journée. Au revoir.